Et voilà, bonjour à mon invité Éric Berthollet, bonjour.
Bonjour.
Alors, ravi de vous retrouver dans notre studio. Voilà, on vous avait accueilli pour parler de cet événement à Digne, Regard sur l'autisme, un événement sur 4 jours pour changer notre regard et notre compréhension sur le monde un peu particulier, on peut le dire, qu'est le monde de l'autisme. On va revenir sur ces 4 jours, à savoir à faire un peu un bilan, savoir si le public était au rendez-vous et si vous êtes plutôt satisfait des retombées, si vous avez eu des retours aussi.
On est assez satisfait parce que on s'est rendu compte que malgré le petit handicap d'agenda, parce que c'était un lundi après-midi, la journée principale a été proposée un lundi après-midi. Donc c'était pas facile, on a eu beaucoup de retours, de nombreuses personnes qui étaient vraiment au regret de ne pas pouvoir se déplacer parce qu'elles travaillaient. Donc si on avait pu faire ça sur un créneau plus confortable, un samedi ou un mercredi après-midi par exemple, on aurait pu bénéficier de la présence de beaucoup d'enseignants, de gens qui travaillent dans cet univers-là, mais bon, malheureusement ça n'a pas été possible. Donc c'est vrai que la fréquentation du lundi n'était pas terrible, mais le contenu, les débats, les échanges, tout ça c'était très riche. Et les quelques personnes qui nous ont fait un retour directement en sortie de salle ce jour-là, à l'unanimité, hein, ils étaient vraiment tous ravis, tous ont eu l'impression d'avoir appris des choses et ont eu l'impression de repartir avec des clés, voilà, avec des réponses à des questions. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement positif.
Parmi le public, plutôt des personnes concernés par des enfants ou de la famille, oui, atteints du syndrome d'autisme.
Voilà.
Plutôt ce public-là.
Il y a plusieurs profils. Il y avait plusieurs profils mélangés. Il y avait des gens. Il y avait ceux qui effectivement étaient confrontés au problème de l'autisme dans leur cadre familial, donc soit un enfant, soit un proche, donc intéressé par le sujet, soit dans le cadre professionnel, puisqu'il y avait quand même quelques professionnels dans la salle. Pas trop de professionnels de santé, mais de la petite enfance. Et voilà, tout le monde ne s'est pas manifesté en tant que tel, quoi, mais il y avait quelques professionnels. Pas assez, évidemment, mais des élus locaux qui auraient pu être interpellés par le problème.
N'étaient pas présents non plus.
Ils ne se sont pas manifestés. Ils étaient certainement avec nous par la pensée, mais enfin, en tout cas pas physiquement.
Alors c'est un peu dommage parce que ça, en plus, est-ce que c'était la coïncidence, ça a correspondu avec le début des semaines de la santé mentale et physique.
Là, on a eu un mois de mars très compliqué et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas remarqué à l'époque où on avait lancé le projet et à l'époque où le projet avait été inscrit dans l'agenda. Ça tombait pile poil avec le lancement de la semaine sur la santé mentale, donc une semaine de sensibilisation à ça. Donc il y a des choses qui se sont passées à peu près au même moment à Digne sur des thématiques qui finalement sont pas identiques, mais voilà, il y avait certainement des croisements à faire, quoi. Donc c'était un petit peu dommage, mais bon voilà, c'est comme ça, quoi. Mais c'est vrai que le côté événement autour de l'autisme, parce que c'est quand même un petit événement qu'on a essayé de créer, à mon sens, je pense que c'est assez novateur. Sur la ville de Digne, je pense que c'est la première fois que ça a été fait.
En tout cas, même si le public n'a pas été extrêmement nombreux, vous dites que les personnes sont reparties avec des clés, oui, un peu plus positives, un peu plus, oui, avec, oui, un peu davantage d'espoir.
Oui, ouais, tout ça, ouais. Il y a un climat vraiment très, très positif, quoi. Et ça, c'était très bien. Et la journée du lundi s'était clôturée donc, par le concert de Percujam, voilà,
magnifique,
artiste autiste, superbe concert. La fréquentation était timide aussi, mais pareil, là, beaucoup de témoignages en sortie de salle, même pendant le concert. Des gens nous ont même confié qu'ils avaient été bouleversés de voir ça sur scène, de voir ces jeunes adultes autistes se retrouver comme ça pleinement épanouis sur scène, dans la musique, autour de ce projet musical. C'est vraiment extraordinaire.
Franchement, j'étais bluffée, comme beaucoup, je pense. Je suis venue, moi, avec l'idée de voir un peu comme un concert de fête de fin d'année. Mais je ne m'attendais pas à un tel niveau, une telle qualité. Et cette pêche, est une qualité, vraiment une qualité. Aussi bien des autistes, artistes, instrumentistes, que, que le chant, vraiment, c'était...
En fait, le résultat a été à l'opposé de ce qu'on pouvait s'imaginer, voir quand c'est un projet comme ça qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais entendu. C'est vrai qu'on peut s'attendre à des personnes qui donnent une prestation qui est dans les limites de leurs possibilités.
Voilà, qui se font plaisir.
Dans leur capacité donc, de personnes avec handicap, quand même. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Il s'avère que sur scène, pendant les concerts, ce sont des artistes accomplis, avec énormément de talent, et le public a été chauffé à blanc.
On va en écouter un extrait.
Ouais, vraiment formidable.
Peut-être tout de suite d'ailleurs. Allez, on écoute un peu cette ambiance, même si le son était pris dans la salle, donc c'est pas d'une grande qualité, mais en tout cas, on voit bien l'ambiance qui régnait au centre culturel avec ce groupe Percujam.
D'ange gardien de sympathie. Quand ma grimace quitte un piano, rencontre les travailleurs sociaux. Madame Allier, madame. Il a suffi d'une différence pour enfermer notre raison. Auprès du juge des parties, tout ce que la différence en lui. On a beau dire et on a beau faire le handicap quand il se voit. Que c'est de l'ombre à la lumière et disparaît quand c'est de là. Madame Allier, madame. Pourtant les bons d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. C'est que les différences sont les mêmes dans tous les pays. Mais nous sommes les garants d'un monde qui court à l'oubli, messieurs dames. On est content de tous les mêmes avec une seule identité. Avec ma cœur, des rires, des pensées, symboles de ton humanité. Juste le temps et des chansons. Allez, vas-y, donne-toi la main. Ce soir, qu'on fait différent. Toi, moi, ne le sens plus qu'un. Madame Allier. Lutter contre les différences en portant haut le bouclier. Elle est pas très jolie la France quand elle se met à se moquer. Cette chanson-là n'est pas un slam, c'est juste un hommage à cette dame. C'est avec vous que l'on partage nos reposés là sur la patte. C'est pas pour un boule bâclé, 10 ans de vie à se jeter. On a juste eu à poser la clé pour que nos 10 ans se résument. Madame Agnès, madame.
Sans
Voilà, c'était un extrait donc de Percujam en concert à Digne. Magnifique groupe. D'ailleurs, ils sont passés, ils étaient invités à C'est à vous, sur l'émission de France 5.
En fait, c'est vrai qu'ils font l'Olympia le 4 avril. Donc, le 4 avril, c'est une grande soirée autour de Percujam. Donc, il y aura la projection d'un film qui a été réalisé sur eux. Un long métrage, hein, une belle réalisation, j'ai vu quelques extraits, et suivi donc de leur concert. Donc ils sont en train de préparer ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a, un bel écho dans toute la presse, dans tout le monde médiatique, et ils enchaînent les plateaux télé. Alors C'est à vous, on en a parlé là, je sais pas, dimanche, l'émission de Drucker, sur TF1, sur.
Ils sont partout.
En ce moment, ils sont dans une belle actualité, ouais.
Et oui, j'avais donc interviewé Raphaël, un des artistes autistes de ce groupe, et j'étais vraiment bluffée par cet artiste, vraiment, et puis il était tellement solaire, enfin les autres aussi, hein, on voit sur les photos cette joie, multi-instrumentiste, vraiment c'était des personnes de qualité, malgré un handicap qui ne se voit vraiment pas, parce qu'ils sont dépendants à 80%, nous disait l'éducateur.
Ouais, ils ont un traitement assez lourd, et ils sont complètement dépendants, enfin 80%, quoi. Et voilà, pour avoir vécu une partie de la journée un peu avec eux en dehors du moment du concert, j'ai vraiment vu la différence. J'ai vu aussi l'exceptionnel travail des éducateurs.
Voilà, parce que les éducateurs disaient qu'ils sont musiciens, mais ils sont avant tout éducateurs, et c'est une belle aventure, mais aussi une sacrée responsabilité.
Ah, c'est des gens fantastiques qui adorent leur petite équipe, quoi. Ils s'adorent tous les uns les autres.
Magnifique projet qui a vu le jour en 2000, hein, c'est ça? Ça fait déjà de 2000 à 2009, et qui s'est refait.
Voilà, en fait, à l'origine, c'était un atelier de percussion qui avait été organisé donc dans le centre, d'où ils viennent tous. Hein. Et puis ça a bien fonctionné. Et puis il y a des éducateurs qui ont rejoint l'équipe et qui étaient un petit peu musiciens. Et donc du coup le projet a évolué. Et, voilà, donc on est passé d'un simple atelier de percussion, donc ils ont conservé le nom de percu, à carrément un groupe de musique avec des orientations un petit peu reggae, un petit peu slam, un petit peu ils explorent pas mal de pistes. Et donc du coup voilà, le nom Percujam. Beaucoup de personnes pensaient que c'était un concert de percussion au début. Donc il a fallu clarifier les choses. Non, c'est pas du tout ça. Mais il y a une origine autour de la percussion.
Donc, Eric Bertollier, on va revenir au bilan. Donc, ça, c'est le bilan positif, bien sûr, de ce concert. C'était festif, apprécié. Ils ont mis le feu au centre culturel. Avant, il y a eu donc des conférences avec Catherine Delaprelle, et une table ronde avec des parents, des enseignants aussi. Et
une AVS.
Une AVS, et on a bien sûr parlé, il était question de la méthode D3I, cette fameuse méthode dont on ne parle pas encore assez.
Alors, effectivement, l'événement a été quand même centré autour de cette méthode, la méthode D3I, qui veut dire intensif, individuel, interactif. Et c'est l'association AEVE qui porte cette méthode depuis 10 ans maintenant. Et pour à l'occasion justement du 10e anniversaire de l'existence de l'association, AEVE a organisé une sorte de Tour de France qui a commencé donc en juin 2015. Et donc ça a permis à l'association AEVE de s'arrêter dans des grandes villes, en général là où il y a des parents qui ont des enfants qui ont bénéficié de cette méthode-là, pour promouvoir un petit peu la méthode, pour faire parler des 3I. Donc chaque étape, il y a un petit événement, un vide-grenier, une course, un lâcher de ballon, des choses parfois très symboliques, qui ne sont finalement que des prétextes à organiser des moments un petit peu médiatisés par les presses locales et pour pouvoir parler un petit peu de la méthode. Il est revenu à Digne, donc du coup... On a essayé de faire en sorte que ce soit pas juste une réunion d'information avec un petit stand sur le marché. On a voulu aller beaucoup plus loin pour donner la possibilité à la méthode des 3I de pouvoir être un petit peu le centre d'un événement qui soit un petit peu plus large que la méthode en elle-même, puisqu'on a abordé l'autisme d'une façon générale. On a eu des exposés, notamment le docteur Gins qui nous a fait un super exposé sur l'autisme. On a voulu aussi amener des choses concrètes, parce que très souvent on constate que les événements qui ont l'autisme pour thématique. Souvent, ce sont des plannings. Alors, on a 20 minutes d'un professeur qui va nous parler des neurosciences, et puis après, on a 30 minutes d'un autre professeur qui va nous parler de la protéine, etc. Donc, ce sont toujours des façons d'approcher le thème de façon un peu magistrale, des fois scientifique, des fois rébarbative. Enfin, bon, voilà. On voulait pas tomber dans ce truc-là. On voulait vraiment amener du concret. Donc, il y avait des parents qui ont témoigné. On a eu une enseignante qui a témoigné, elle, de son rapport à l'autisme, comment ça se passait dans sa condition d'enseignante, au niveau des formations, qu'est-ce qu'elle savait, qu'est-ce qu'elle savait pas, une AVS. Donc, la méthode des 3I a été vraiment proposée au public, mais par des approches très concrètes. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence et qui a permis donc à des gens de se sentir vraiment, vraiment concernés et touchés par le problème. Et comme je disais tout à l'heure, d'avoir réussi à ressortir de cette salle avec des clés, des réponses à des questions. Donc c'est allé au-delà de ça. Et en ce qui concerne la méthode des 3I, donc c'est vrai que c'est une méthode développementale dont on parle peu à l'échelon national, dans les réseaux médiatiques nationaux. Parce que c'est vrai qu'en France, la prise en charge de l'autisme, elle est un petit peu investie d'un lobbying, le lobbying d'une méthode ABA et de quelques autres approches assimilées à ABA. C'est un véritable lobbying qui est partout, qui a investi toutes les structures institutionnelles. Voilà, c'est la méthode, c'est l'approche instituée. Certainement parce que ça a été aussi la toute première dans l'histoire des approches de l'autisme depuis qu'on a découvert un petit peu ce que c'était. C'était la première méthode qui a donné des résultats alors qu'à une époque où il n'existait rien et où on considérait que si l'enfant était autiste, c'est parce qu'il avait des problèmes relationnels avec sa mère.
Ce qui n'est pas justifié du tout.
C'est incroyable aujourd'hui de continuer à penser ça, quoi. C'est la psychanalyse, c'est l'approche psychanalytique dont on parle régulièrement, qui induit cette vision des choses. Donc c'est vrai qu'ABA a été une des premières méthodes à être mise en évidence et dont on a parlé. Et puis dans l'histoire de la prise en charge de l'autisme en France, donc c'est ABA qui tient le haut du pavé. C'est ABA qui rafle tous les financements attribués à l'autisme en France. Donc, je veux dire, enfin, une grosse partie tout du moins. Donc, il y a vraiment, voilà, il y a l'omniprésence de cette méthode-là. Et donc, dans les médias, et donc les médias nationaux, comme le soulevait Catherine Delaprelle, font un petit boycott, un peu barrage, boycott. Donc, parce que, bon, voilà, ABA, c'est la méthode qui est...
Mais est-ce que c'est une méthode qui fait ses preuves aussi ?
C'est une méthode qui amène des résultats qui sont discutables. C'est une méthode comportementale. Donc, c'est-à-dire que c'est une méthode qui va davantage s'intéresser au comportement de l'enfant. Donc on va, en gros, pour faire simple, on va inculquer à un enfant certains comportements dans certaines situations pour le sociabiliser, à travers l'apprentissage. Mais tout ça se fait un petit peu de gré ou de force. Et c'est vrai que l'enfant, au final, effectivement, il peut parler, il peut dire des choses, mais après, est-ce qu'il est capable d'exprimer vraiment ce qu'il est? Est-ce qu'il est capable de s'approprier toutes ces attitudes qu'on lui inculque? La méthode des 3I, elle, c'est une méthode développementale. Donc, qui prend le problème plus à la racine. Et sa stratégie, c'est de dire l'enfant autiste n'a pas les capacités, n'a pas les facultés, n'est pas en mesure de pouvoir aller à l'école, de pouvoir apprendre, de pouvoir évoluer dans l'état actuel de ce qu'il est. Il est en souffrance, il faut le mettre dans une situation d'apaisement, et puis il faut faire un travail pour rentrer dans sa bulle. Et faire en sorte, puisque c'est une méthode qui est basée sur la stimulation par le jeu, et faire en sorte de le... À travers cette stimulation-là, c'est une hyper-stimulation, puisque c'est la méthode des 3I, hein, des I, c'est dire intensif, donc quelque chose d'intensif, l'idée de faire quelque chose d'intensif, lui permet de retrouver un petit peu, de reprendre un développement qui s'est arrêté à une certaine période de sa vie, de reprendre ce développement-là, et de fil en aiguille, ce développement lui permet de reconstruire un petit peu toutes les bases dans son psychisme qui vont lui permettre après de d'apprendre et de pouvoir commencer à retrouver retrouver un fil de vie normal quoi. Il va réapprendre tout seul certains comportements et,
En fait, ce sont des connexions qui se font plus et ce qu'on sont... peut on peut arriver à faire se reconnecter finalement.
Tout à fait, ouais. C'est un gros désordre. En fait, c'est une, c'est un problème neurodéveloppemental, l'autisme. Mmh. C'est un gros désordre au niveau du développement. Et c'est vrai que la stimulation crée du neurone et rétablit un petit peu, rétablit un peu de la, toute la connectivité dans le cerveau. Et en fait, l'enfant autiste, il est en état d'hyper, d'hypersensibilité. Il a une sorte de surabondance de connexion. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que
c'est, oui, c'est ce qu'elle expliquait Catherine Delaprelle, c'est-à-dire que l'hypersensibilité auditive, enfin des sens, et ça peut être vraiment insupportable de sortir dans la rue avec les bruits des voitures.
C'est, ils sont dans le même état physiologique qu'un nourrisson par rapport à ça, au niveau de tous les sens. Et un enfant qui va avoir un développement normal, il y a une sorte de tri qui va se faire dans son cerveau. Un tri de choses qui vont devenir inutiles, donc qui vont être abandonnées, et des connexions qui vont plus se recentrer sur telle ou telle ou telle chose. Ce qui fait qu'on passe d'un nourrisson qui est hypersensible à tout, qui entend des choses qu'on n'entend pas, qui est super sensible à la lumière, au bruit, etc. On va passer tout doucement à un enfant qui va accepter l'autre, qui va se retrouver dans une. Qui va se sociabiliser, qui va. Voilà. L'enfant autiste, il est en défaut de tout ça parce que voilà, ce tri ne s'est pas fait et il a une sorte d'hypersensibilité. Et voilà, son handicap découle de ça, quoi. Et la stimulation par le jeu permet de reprendre un petit peu ce développement-là. C'est-à-dire que l'enfant va repasser par des étapes qu'il a loupées dans sa petite enfance. L'exemple le plus flagrant, c'est certains enfants qui ont bénéficié de la méthode des 3I à un âge un petit peu avancé, c'est-à-dire aux alentours des 17-18 ans. J'ai l'exemple en tête d'une jeune fille de 18 ans qui a été prise en charge par la méthode des 3I. Et c'est vrai que une des premières manifestations de progrès, aussi bizarre que ça puisse être, quoi, c'est le fait de s'être mise à jouer à la poupée. Voilà, chose qu'elle n'avait jamais fait. Et un jour elle s'est mise à jouer à la poupée comme une toute petite fille. Et elle est repassée par certaines étapes. Elle a remarché à quatre pattes. Elle a fait des choses qu'elle aurait dû faire à l'âge de 2-3 ans, ce qui ne s'est pas fait. Et voilà, ce développement qui s'est arrêté, en fait, a repris plus tard.
Donc c'est nécessaire de repasser par ces étapes pour grandir.
En fait, si on suit voilà, dans la stratégie de la méthode des 3I, ce sont des passages nécessaires. Mmh. Nécessaires parce que ils expriment justement ce progrès, quoi. Et voilà. C'est une méthode donc développementale, donc qui influe sur le développement.
Et plus elle est réalisée tôt avec les enfants détectés autistes, et plus les résultats peuvent être rapides.
La précocité de la prise en charge, elle est primordiale. On l'a vu hein, dans l'expérience 3I sur des enfants pris en charge, diagnostiqués très très tôt, ce qui en France tient quasiment du miracle. Hein. Diagnostiqué très très tôt, donc pris en charge très très tôt, ça leur a permis de, ben voilà, on passe de l'étape d'un enfant qui commence à s'enfoncer un petit peu dans son problème à un enfant qui se retrouve dans un cursus scolaire, puisque c'est l'objectif, hein. AEVE, d'ailleurs ça veut dire autisme espoir vers l'école, le retour vers l'école, c'est vraiment l'objectif principal, et sans AVS. En toute autonomie.
Auxiliaire de vie scolaire.
Voilà, ouais. Auxiliaire de vie scolaire.
Et on a vu, donc, bien sûr, à Digne, on connaît l'exemple de Djibril, votre fils, qui a été vraiment, en 3 ans, a pu réintégrer l'école.
Qui a bénéficié de cette méthode à un moment où vraiment il parlait pas. Bon, voilà, il y avait cette histoire de regard qui était un peu fuyant. Mm-hmm. Donc, Djibril a été diagnostiqué TED. trouble envahissant du développement, non spécifié, donc ça veut dire on ne sait pas. Parce que c'est vrai que bon, bah là, on... quand on est confronté à ce problème, on évolue parfois dans des milieux professionnels où on, finalement on a en face de nous des gens qui ne savent pas, ce qui est quand même assez paradoxal. Quand on va voir son médecin, parce qu'on a ça, il nous répond bah, « j'en sais rien ». Ouais. C'est un petit peu bizarre.
Ils ne savent pas tout.
Et diagnostiqué donc très tôt, donc pris en charge très tôt, et donc des résultats très rapides. C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, on voyait déjà des changements. Djibril a su lire et compter avant de savoir parler. Ça, il nous l'a prouvé au travers de ces jeux. Et il s'est ouvert. Il était fermé au début vraiment aux autres. Pas, moins à nous, nos parents, mais c'est vrai que c'était un petit garçon qui était fermé aux autres. Il s'est ouvert d'une façon...
Aujourd'hui, il est pleinement épanoui. Il n'y a pas de difficulté aucune avec le monde... Alors, en société.
Non, il n'a aucune difficulté particulière. Il a du bagou, même, d'ailleurs. Il aura toujours un petit peu des petites spécificités. Il est toujours un petit peu en déficit, je dirais, de spontanéité par rapport à ses petits copains. Il lui faut, dans les moments collectifs, il lui faut un peu plus de temps que peut-être un petit garçon normal. Enfin, je n'aime pas trop utiliser ce mot-là. Mais pour pouvoir s'intégrer dans une équipe, il est souvent à l'écart. Il est très satellisé au début, et puis après, une fois qu'il s'est habitué, une fois qu'il a pris ses marques,
observé.
Il a besoin d'une phase d'observation. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il a gardé. Mais d'un point de vue scolaire, c'est un petit garçon qui suit le mouvement comme les autres. Il est très scolaire dans son attitude. Il obéit bien aux consignes. Il sait s'exprimer, il prend la parole. Ça, c'est quelque chose qu'on a attendu longtemps. Il prend la parole spontanément. Et je pense que dans 2-3 ans, il n'y aura plus aucune différence avec ses petits camarades.
Donc ça, c'est une belle réussite. Mais ce n'est pas le seul. On parle de Djibril puisqu'il est... Il est ici, mais on a pu voir lors de la conférence de Madame Catherine Delaprelle de nombreux cas d'enfants qui ont extrêmement bien évolué et à des âges très différents.
Oui, de nombreux enfants. Il y a plusieurs paramètres pour que ce soit une réussite, parce que c'est pas non plus une cour des miracles. Aucune méthode peut prétendre être la cour des miracles par rapport au problème de l'autisme, mais il faut que les choses se déroulent de façon précise. Il faut qu'on aménage une salle de jeu de façon rigoureuse. Il y a des façons de faire certains jeux opacifier les vitres qui peuvent donner à l'extérieur, que ce soit très doux, que ce soit très apaisant, où l'enfant se sente bien. Donc déjà ça, c'est un point essentiel. Ensuite, il faut qu'il y ait une équipe de bénévoles qui soit suffisamment importante. C'est vrai que suivant les cas, entre 20 et 30 bénévoles, déjà c'est pas mal d'arriver à mobiliser entre 20 et 30 personnes, sachant que ces bénévoles vont intervenir tous les jours, à domicile, 7 jours sur 7, donc il n'y a plus de vacances. Il n'y a plus de sorties familiales, on va plus au supermarché, on évite les fêtes de famille, on évite tous les moments qui peuvent constituer un moment d'angoisse pour l'enfant et qui font que il va régresser, il va se refermer sur lui-même. Donc c'est vrai que c'est un engagement collectif.
Et c'est un engagement qui est sur 3 ans ou qui peut être ces 3 ans minimum.
Avec le recul. Et avec les expériences donc passées quoi, d'enfants pris en charge depuis 2004 maintenant, on estime que entre 30 et 36 mois, c'est à peu près la période de base pour qu'un enfant qui aura été retiré du milieu scolaire, de la crèche, enfin de tout milieu collectif dans lequel il est, et il y a cette prise en charge, ces 36 mois, après il peut commencer à réintégrer l'école. Soit l'école ordinaire, soit l'école à la maison. Donc voilà, c'est selon l'enfant, selon la façon dont la méthode aussi est appliquée.
Trois ans, on a l'impression, c'est forcément très long pour les bénévoles, pour la famille, pour d'investissement, mais en même temps, c'est pas grand-chose pour une vie complètement modifiée.
C'est exactement ça. Ça peut paraître long Quand on réfléchit à cet aspect-là des choses, on se dit 3 ans, mais qu'est-ce que ça va être terrible, ça va être long. Bon voilà. Mais après, si on réfléchit dans l'autre sens, on se dit on sacrifie quoi finalement? On sacrifie rien. Mmh. On décide de mettre sa vie personnelle en suspens pendant 3 ans pour permettre à son enfant d'avoir un avenir peut-être plus tard meilleur que ce qu'on nous aurait proposé si on n'avait rien fait. Nous, si Djibril en avait pas pris l'initiative d'aller vers cette méthode-là, tout ce qu'on était capable de nous proposer au final, c'était un IME, enfin c'était une hospitalisation de jour, quoi. Donc en fait, il y a une espèce de route toute tracée quand on a un enfant autiste, et après soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Si on l'accepte pas comme nous et qu'on se dirige vers une méthode comme celle des 3i, il faut pas s'attendre à ce que les gens fassent le travail à notre place. Voilà, il faut remonter les manches, il faut y aller, et puis c'est 2-3 ans de c'est une aventure qui peut paraître longue. Après, je comprends peut-être que c'est plus facile de confier son enfant à un centre et puis de se dire c'est une équipe qui s'occupe de
professionnels.
Voilà,
il y a ça aussi, hein. Vous en parliez dans la méthode. C'est pas nécessairement des médecins, des psychologues. Enfin, les psychologues, il en faut un. Mais voilà, il n'y a pas forcément un encadrement de professionnels.
Dans l'équipe de bénévoles, il n'y en a aucun qui a fait des études de médecine ou de psychologie. Par contre, c'est ce qu'on appelle du bénévolat de compétences. C'est-à-dire ce sont des gens qui amènent des compétences personnelles et qui vont être forcément mises à contribution et profiter à l'enfant. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être un goût pour la musique, ça peut être des travaux manuels, ça peut être une passion, quelle qu'elle soit, qui peut être un support pour arriver à établir un contact avec l'enfant et puis à le faire évoluer. Et l'enfant, au final, il adore ça. Il demande que ça. Et c'est vrai que dans toute l'équipe, le seul professionnel, c'est le psychologue qui encadre le suivi.
Qui s'occupe de l'enfant, mais aussi il y a des réunions régulières avec les bénévoles.
En fait, chaque bénévole déjà tient sur un cahier, tient à jour une sorte de main courante dans laquelle il explique ce qui a été fait pendant la séance, qu'est-ce qu'il a senti comme progrès, qu'est-ce qu'il pense qu'on pourrait faire la prochaine fois, etc. Il y a une réunion hebdomadaire, une fois par semaine, où la psychologue se déplace, tous les bénévoles sont là, on se fait une réunion, et là on fait un point, il y a des grilles d'évaluation, il y a des objectifs, est-ce qu'on l'a atteint, est-ce qu'on l'a pas atteint, et voilà, et donc on note, on note, bon alors on a 5, aujourd'hui c'est 5 sur 6, on a atteint ça, c'est hebdomadaire, et tout le monde est là, et tout le monde participe, et c'est vraiment très constructif, et donc du coup ça donne un cadre relativement rigoureux. Et ensuite, ce que le psychologue fait, donc tout est consigné par écrit, et c'est Catherine Delaprelle en personne, de l'association AEVE, qui elle supervise le travail de la psychologue, et d'une réunion sur l'autre, en règle générale, elle nous transmet des annotations, des avis, vous devriez plutôt faire ça, vous devriez arrêter de faire ceci, là il s'enferme dans ce jeu, il faut l'enlever, elle donne toutes les directions à prendre. Et si on suit rigoureusement sur le long terme, si on suit rigoureusement tout ça, là, oui, à la clé, il y a du progrès, il y a de la réussite.
Alors, on parle de parcours de combattant pour les parents qui ne savent pas au départ, quand ils ont le verdict, enfin le diagnostic qui tombe, ça fait mal souvent, puisqu'on ne comprend pas forcément ou on ne s'y attend pas. Il y a ce parcours du combattant, il y a heureusement cette association AEVE qui permet donc d'être renseigné. Il y a ce que vous avez mis en place avec Cœur Lavande, donc cette première à Digne pour ces 4 jours autour de l'autisme, du regard sur l'autisme. Une expérience qui fait du bien aussi aux parents, donc de se rencontrer, de discuter de ce qu'ils ont rencontré, et de leur expérience et des choses que vous allez peut-être renouveler
quand on est
par la suite.
C'est vrai que quand on apprend, quand on apprend que notre enfant est autiste, c'est quelque chose que de toute façon déjà on imaginait avant. Il y a pas mal de pistes qui vous font penser que oulala, c'est un problème de cet ordre-là, ça c'est sûr. Donc le diagnostic, quand il tombe, c'est presque un soulagement parce que ça nous conforte en fait dans les
qu'il y avait bien quelque chose
peurs, il y avait quelque chose de cet ordre là et donc presque ça nous conforte parce qu'en général ce diagnostic là on l'attend et on l'attend un moment souvent. On passe de professionnel en professionnel, de structure en structure, et puis au final, au final, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un diagnostic. Mais c'est vrai qu'avant que le diagnostic soit posé officiellement, on passe par des phases qui sont pas forcément toujours agréables. Le truc de dire, vous savez, madame, vous devriez être un petit peu moins fusionnelle avec votre enfant, d'accord. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Donc on passe par des phases de culpabilisation. On nous met sur le dos en fait le fait que l'enfant a un trouble. On ne sait pas encore ce que c'est puisque le diagnostic n'est pas encore posé. Donc il y a ça et puis on nous fait attendre. On nous dit ça, il faut attendre. Nous on nous avait dit il faut laisser le temps au temps. Le garçon ça parle tard.
On a intérêt à être un couple assez uni pour se soutenir dans ces moments-là.
Bah, c'est difficile parce que
c'est une épreuve pour toute la famille.
C'est une épreuve parce que qu'on le veuille ou non, on en parle beaucoup là dans des périodes comme celle-ci parce qu'on est très, on va arriver sur la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Mais c'est vrai que l'autisme, on en parle beaucoup, mais on se rend compte qu'en fait, personne n'en sait vraiment pas grand-chose. Quoi. Ça a l'air, c'est encore quelque chose de mystérieux. Et c'est d'autant plus frustrant que ça allait même dans les milieux dits de professionnels de santé où là, c'est presque aberrant. On n'a jamais été alerté par la crèche. Djibril a été en crèche. On n'a jamais été alerté par des personnes tierces, quoi, je veux dire, parce qu'on a apparemment les crèches, les écoles, enfin, on a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas les outils pour ça. Et c'est une réalité puisque c'est des retours qu'on a eu lors de ces journées, donc du mois de mars. C'est des professionnels qui nous disent mais nous en fait on ne sait pas, on n'a pas de formation ou alors le peu qu'on sait, c'est une demi-heure de sensibilisation qu'on a eue il y a 6 mois, un jour, voilà. Donc c'est vraiment très déroutant. Et après, on se rend compte qu'on est tout seul. Le diagnostic est tombé, on a un enfant autiste, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc soit il y a toute la partie institutionnelle qui vous ouvre la marche à suivre et qui vous explique ce qu'il faut faire. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Mais c'est vrai que la plupart du temps, et ça, on se rend compte qu'il y a une foison, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui se réunissent en association. Il y a beaucoup d'associations autour de l'autisme. Et c'est dans cet univers associatif, très, très souvent, entre parents, on se débrouille, on met en place des choses à la maison, on met en place, voilà. Parce qu'il y a une pauvreté en fait de prise en charge adaptée. C'est voilà, il y a la prise en charge institutionnelle apparemment, et c'est, enfin, je dis apparemment mais c'est même une réalité, elle satisfait pas les parents ou très peu quoi. Je connais peu de parents qui vivent pleinement la prise en charge de leur enfant autiste dans des centres en IME ou des choses comme ça.
On parlait de coûts d'installation de salles de jeu. Il va peut-être y avoir une possibilité de faire des choses, un lieu commun pour différents. Alors, une structure commune.
En fait, il y a un concept que AEVE essaye de développer, donc c'est pas facile, qui est le concept de centre lutte d'éveil. En fait, c'est une structure, un local, un lieu avec plusieurs salles aménagées dans laquelle des familles qui sont motivés pour le faire aussi, donc il y a vraiment la motivation est très importante, dans laquelle plusieurs familles peuvent mutualiser un petit peu les moyens, et dans lequel donc plusieurs enfants peuvent être suivis dans des salles individuelles. Et donc du coup, en règle générale, c'est une structure associative qui gère, et en règle générale, les locaux sont mis à disposition par la commune, par la collectivité, donc gracieusement. Et ça permet à plusieurs enfants de pouvoir bénéficier d'un suivi, ça permet à des parents de pouvoir continuer à travailler, avoir une vie un peu normale, parce que c'est vrai que quand on a un enfant à domicile qui est suivi, c'est l'exemple de la lutte de Troisy, mais y a des parents qui sont obligés d'arrêter de travailler ou de se mettre à temps partiel, ou qui sont y a beaucoup de répercussions dans la vie. Dans la vie économique de la famille, de la vie sociale, il y a beaucoup de répercussions comme ça. Donc le centre lutte d'éveil permet à des parents, malgré tout, de pouvoir conserver une vie sociale et économique à peu près normale, ce qui est prépondérant, parce qu'il y a eu tellement de... Enfin, il y a beaucoup de drames familiaux, d'ailleurs des problèmes d'autisme, des couples qui explosent, des familles qui se disloquent, et ça complique davantage la prise en charge parce qu'au milieu il y a un enfant autiste qui a besoin d'attention, d'affection, qui a besoin de sérénité, et malheureusement la situation n'amène pas toujours forcément à la sérénité, quoi. Bon. Mmh. Donc le centre du déveil a cet avantage là. Il y a un autre avantage qui n'est pas négligeable non plus en termes de coût, c'est-à-dire que un enfant pris en charge en hôpital de jour, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois qu'il faut compter par mois et par enfant une somme à peu près de 10 000 euros. 10 000 euros pour un enfant en centre de jour. Donc, le centre du déveil revient par enfant à 1 000 euros. Voilà. Mmh. Donc il y a quand même un rapport de 1 pour 10. C'est pas négligeable. Sur ces 1 000 euros, a priori, la collectivité n'intervient pas. Mmh. Donc, je veux dire, c'est une méthode qui ne coûte rien à la collectivité. C'est une méthode qui n'existe et ne vit que sur des fonds privés. Il y a quelques fondations qui soutiennent, des dons. Voilà, il y a pas mal de petits du système D. Quoi, il y a une tombola tous les ans. Il y a voilà, les familles essayent de vendre un peu des t-shirts. Enfin, il y a toujours voilà, il y a AEVE fonctionne et vit grâce à ça. Et les centres du déveil, à mon avis, sont une solution d'avenir pour la prise en charge de l'autisme. C'est une solution intéressante économiquement. La philosophie, je la trouve intéressante. La démarche, je la trouve intéressante aussi. Voilà, je pense ça parce que les chiffres sont en augmentation. On compte de plus en plus d'enfants développant un autisme.
Donc est-ce qu'on sait de comment ça s'explique ?
Ça s'explique de plusieurs façons. Là, aujourd'hui, on en est dans les statistiques à environ... L'autisme concerne une naissance sur 100. Mm-hmm. Les Américains sont un peu plus pessimistes. Pour eux, là, les chiffres les plus récents, ils parlent d'une naissance sur 68. C'est plus précis. Mm-hmm. Voilà, il faut savoir qu'en 1960, ça concernait une naissance sur 2000. Voilà, donc il y a une progression. Après, les pistes, elles sont génétiques. La génétique est bouleversée, on le sait, là, sur les derniers scandales qu'il y a pu y avoir par rapport aux, ne serait-ce que les pesticides, voilà, donc les problèmes des vaccins, etc.
Pollution, vaccins, voilà, et stress en plus.
Voilà, des facteurs environnementaux, des choses qui se croisent, qui font que les métaux lourds dans les vaccins, on suppose très sérieusement que ça a provoqué de l'autisme aussi chez des enfants. Certains médicaments pris pendant la grossesse. Récemment, une émission d'investigation qui a mis le doigt sur les problèmes des pesticides. Mmh. Voilà, donc les pesticides à proximité des écoles ou des lieux de vie donc seraient responsables de l'augmentation du taux d'autisme, enfin en tout cas d'enfants développant un trouble du spectre autistique. Donc il y a toutes ces pistes-là qui sont mises en avant, qui sont étudiées. Donc voilà. Et puis il y a aussi l'affinage du diagnostic. On arrive à diagnostiquer plus précisément aujourd'hui des choses peut-être plus facilement et plus efficacement qu'il y a 15 ou 20 ans. Donc tout ça mêlé, ça fait que quand même, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter et qu'il n'est pas idiot de commencer à réfléchir à comment on va faire, quoi, qu'est-ce qu'on va faire. On voit bien que les milieux professionnels, ils sont au bout de leurs possibilités, les crédits baissent, il manque du personnel. Comment est-ce qu'on peut imaginer de la part d'un professionnel la prise en charge d'un enfant 6 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est impossible. Donc il y a vraiment, je pense, une réflexion sérieuse et urgente à avoir sur le rôle et la façon, le bénévolat qui est la clé du fonctionnement de la méthode des 3i. À mon avis, il va falloir s'y intéresser de plus près, quoi, ce bénévolat-là, parce qu'il n'y a que le bénévolat, qui peut pallier au problème de prise en charge. Djibril, par exemple, quand il était pris en charge dans une structure, c'était 3 quarts d'heure par semaine. Qu'est-ce que 3 quarts d'heure par semaine par rapport à 6 heures par jour de simulation ? C'est voilà, il n'y a pas photo.
Vous parlez de la Journée nationale de l'autisme. Elle est quand est-ce ?
Alors, c'est le 2 avril. C'est la journée mondiale, de sensibilisation à l'autisme. Donc, un petit peu partout en France.
Il y aura des conférences, des manifestations.
Voilà, beaucoup d'événements. Ben là, ça fait déjà depuis la mi-mars que les événements commencent à fleurir de part et d'autre. Il y en a de partout. Il y a des marches qui s'organisent. Enfin, il y a des tas de choses. Et il y a EVE, dans quelques endroits en France, surtout à Paris, donc organise donc une marche bleue pour l'autisme et surtout pour montrer qu'il y a quand même des parents qui militent aussi pour le choix, le libre choix de la prise en charge, parce qu'en France, on n'a pas le choix de la prise en charge, on n'a pas cette liberté là et donc si comme nous par exemple on a fait le choix de la méthode des 3i, c'est une méthode qui n'est pas validée, qui n'est pas encore recommandée par la Haute Autorité de Santé, même si non recommandée ne veut pas dire non recommandable, voilà, ça c'est bien de souligner. Bon voilà, on a pris ce choix là mais c'est un choix qu'on a été obligé d'assumer nous personnellement, financièrement, socialement, voilà. C'est pas... Et on n'a pas ce choix-là en France d'aller vers des solutions qui ne sont pas celles préconisées par le système de santé. Voilà, c'est beaucoup...
Beaucoup de choses à faire encore.
Et l'autisme, je pense qu'avec ces journées, on a abordé les facettes les plus importantes. Si on avait voulu faire le tour du sujet, je pense que c'était pas 2 jours. Hein, je pense que ça aurait été 6 mois de.
6 mois non, mais il faut pas non plus que ce soit trop intense parce que sinon on décroche.
Je pense qu'on a réussi à aborder le problème concret. Qu'est-ce que c'est que d'être parent ? Qu'est-ce que c'est que d'être enseignant face à un enfant autiste ? On a abordé une facette un peu plus festive grâce au concert de Pierre Cugliam. On a pu l'aborder aussi de façon un peu plus légère avec la conférence de Joseph Chovanec, qui a quand même réussi avec beaucoup d'humour à nous parler de l'autisme. Voilà. Après, il y a d'autres aspects dont on n'a pas pu parler par manque de temps. Et puis, bon, ce sera peut-être l'occasion de le faire sur une prochaine édition de ces journées. Mais c'est la maltraitance. Aujourd'hui, il y a encore des jeunes autistes qui sont dans des unités psychiatriques, qui sont placés parfois de force dans des centres spécialisés, mais sous médicaments. J'ai vu en préparant ces journées des exemples terrifiants d'enfants autistes maltraités par les soignants qui sont considérés comme des psychotiques, considérés comme tels et donc traités comme tels avec toute une pléiade de médicaments,
on revient à des siècles en arrière sur l'internement, quoi.
L'internement, l'isolement, dans des chambres d'isolement. Y a encore, dans certains endroits, on fait encore ce qu'ils appellent le packing, c'est-à-dire que la contention, on met une bande ou des draps mouillés tout autour de la personne en le serrant parce que soi-disant dans la contention on atteint l'apaisement ou je sais pas trop, enfin bon, c'est des trucs barbares. Voilà, des jeunes autistes ficelés sur un lit, enfin bon, voilà. La maltraitance aujourd'hui c'est une réalité, il suffit de mettre un petit peu son nez dans les actualités un petit peu qui est spécialisé là-dedans pour s'apercevoir qu'il y a des affaires qui sont mises à jour régulièrement. Il y a des parents qui ont des enfants qui sont dans des centres de jour qui n'ont aucune idée de ce qui se passe
à l'intérieur du centre
et qui ne sauront pas parce que c'est pas l'enfant autiste sous médicament qui raconte, il peut pas raconter ce qu'on lui fait quand il rentre chez lui le week-end. Enfin, il y a vraiment des choses terribles et j'espère qu'on aura l'occasion un jour de l'aborder parce que c'est un sujet qu'il faut aborder sur la maltraitance des jeunes autistes et aussi, et ça Joseph Chovanec a eu la délicatesse de le faire pendant sa conférence, aussi des personnes vieillissantes avec autisme parce que l'autisme ça ne concerne pas que les enfants, hein. Un enfant autiste devient adolescent, il devient adulte et puis ensuite une personne vieillissante. Et très souvent, les personnes vieillissantes avec autisme se retrouvent en maison de retraite après avoir passé leur vie de centre en centre, en psychiatrie, en centre spécialisé, etc. Donc, ce sont pas. Il y a eu un immense gâchis qui fait qu'aujourd'hui voilà, avec ces journées et puis d'autres journées qui vont venir, j'espère que je vais pouvoir continuer un petit peu à militer pour le libre choix de la prise en charge et pour la méthode des 3 I qui font que je sais que mon petit garçon finira pas sa vie dans une maison de retraite, quoi. Par exemple. Voilà, donc il y a encore beaucoup à faire et à dire.
Éric Berthollet, merci. On n'est pas revenu sur le bilan financier. Est-ce que vous avez pu rentrer dans vos frais
Alors on a eu la chance,
d'organisation.
Ouais, on a eu quelques partenaires qui nous ont suivis. Vraiment, c'était inespéré et très, très généreux de leur part, qui nous ont aidés financièrement. Donc il y avait le Lions Club et le Rotary, voilà, je les nomme. L'association AVE aussi, puisque l'organisation s'est faite en collaboration avec l'association AVE. Financièrement, c'était ambitieux le projet, mais il faut qu'on voit les comptes, mais on est presque à l'équilibre. On est peut-être légèrement déficitaire, mais bon, je pense que des actions futures nous permettront de rentrer un peu dans les frais. Et voilà. Mais c'est vrai que si on n'avait pas eu ces quelques partenaires financiers, on n'aurait jamais pu faire venir Percujam. Mmh. C'est vrai qu'il a été vraiment un moment formidable. Faire venir les intervenants, la plupart d'entre eux sont venus de très loin, sont venus en avion. Voilà, Joseph Chovanec, donc la présence de Joseph Chovanec qui tient du miracle, compte tenu de son agenda et de ses engagements partout. La veille, il était à Chambéry, le lendemain, il était à Montélimar, l'avant-veille, il était en Bretagne, enfin, il n'arrête pas. Et voilà, non, ça s'est relativement bien passé. Financièrement, on n'est pas trop mal sorti.
On se retrouve quand vous voulez pour compléter encore ce que vous aurez envie d'échanger autour de notre regard sur l'autisme. Est-ce que on termine avec Percujam en concert ?
Allez, on termine encore avec Percujam, qui aura été, je pense, le moment fort
de ces 4 jours.
Voilà.
Éric Berthollet, merci. À bientôt. Au revoir.
À chaque fois, c'est la même rengaine. Pas trop d'amour, on se sépare. Pour la belle vie, il faut des peines, des passages et des départs. Si à nous tous, on essaie de faire qu'un festival de bonheur, c'est peut-être pour ça qu'on se soucie chacun. Pour en prouver chez mal, il faut des cœurs. Se trouve des trésors, c'est pas pour ça qu'on cherche encore. Ce qui nous tient, c'est la santé et le reste, du nord au sud et d'est en ouest. Et garder cœur vers l'horizon, le vent marin dans les cheveux. Tant que l'heure de sous la perle a raison, on verra bien quand on sera vieux.
Ouais. Et Sophie Samarozzi au violon de cœur, s'il vous
plaît. Voilà, c'est une chanson sur l'autisme. Allez, c'est un hommage aux parents, un hommage aux jeunes, un hommage aux travailleurs sociaux, un hommage à tout le monde.
Come on.